Bien, moi je prends le relais de Rémi, la semaine dernière, qui nous a encouragé, un bon petit message, merci Rémi. Alors voilà, je vous invite à prendre Ésaïe 60, un passage bien connu. Ésaïe 60, un passage que j'aime beaucoup, qui a souvent résonné, je le dirai après pourquoi, dans mon cœur. Ésaïe 60, 1 et 2. Si nous voulons comprendre ce qui est en train de se passer, ce texte il nous donne un bon éclairage, ce qui se passe dans le monde. Ésaïe 60, c'est vraiment une parole prophétique. La plupart des exégètes sont convaincus que c'est une parole prophétique pour ces derniers temps, juste avant le retour de Jésus. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alors, que semble dire ce passage? Beaucoup de chrétiens, des pasteurs, des écrivains, des prophètes pensent qu'il parle donc des derniers temps, juste avant le retour de Jésus-Christ, et il annonce un contraste. J'en ai déjà parlé, je pense, c'est pas la première fois que je parle de ce texte, hein. Mais il annonce un contraste très fort entre les ténèbres qui couvrent la terre, les ténèbres, les œuvres ténébreuses aussi, on pourrait dire, hein, la puissance du mal, et la gloire de Dieu sur son peuple. D'abord sur Israël, qui est appelé à vivre une conversion, mais cette gloire aussi sur l'Église à travers le monde, qui est appelée, semble-t-il, juste avant le retour du Christ, à connaître un rayonnement incomparable et un déversement de la puissance de Dieu. Je suis assez d'accord avec cette conviction. Il me paraît cohérent de penser que, à l'approche du retour en gloire de Jésus, je rappelle qu'il y a 200 passages dans le Nouveau Testament qui font allusion au retour de Jésus. 200 environ. Donc, il paraît cohérent de penser qu'à la fois la rage de Satan va augmenter dans son désir d'arracher hein, les âmes avant qu'ils soient liés pour toujours, mais aussi l'Église va briller de plus en plus. Merci Seigneur. S'apprêtant à devenir l'épouse, sans tache, logique. Cette épouse sans tache, ni ride, sainte, irrépréhensible. Et par ce rayonnement, une multitude va encore être sauvée. Une multitude d'âmes vont courir vers la lumière. Ils vont s'approcher des chrétiens en leur disant « Qu'est-ce que vous avez ?» Ah, j'ai un concurrent là. Ça parle d'argent, 7 millions d'euros, je ne sais pas ce que c'est. Mais... Voilà. Voilà, voilà comment je comprends Ésaïe 60. Je ne sais pas si vous le comprenez comme ça. Moi, je le comprends comme ça. Je me souviens qu'en 2009, j'étais à la clôture d'un grand rassemblement catholique. J'étais invité en tant que protestant. Réveille l'amour, que Jacques a bien connu aussi, en 2009. Et je me souviens que c'était à la conclusion et d'un seul coup, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Le Saint-Esprit me rappelait ce passage, comme pour me dire, Jean-Luc, qu'est-ce que tu crois à ça? Mais vraiment, hein, j'en ai même pleuré ce jour-là. J'en ai pleuré. J'étais, à la fois je pleurais, mais c'était des pleurs de joie. Assuré que j'étais de ce déversement de gloire sur l'Église. Et vous savez que j'aime bien un écrivain chrétien que j'aime beaucoup, Francis Frangipane, il envoie de temps en temps des messages là sur Internet. Il a eu cette vision que je vais vous décrire il y a plusieurs années. Il a dit ceci. J'ai vu une ville enveloppée d'une épaisse et totale obscurité. Il régnait sur cette zone une grande désespérance et une profonde affliction. Les ténèbres y étaient palpables, comme celles qui tombèrent sur l'Égypte à la façon d'un jugement. Les personnes avec qui je me trouvais étaient hors de la ville. Nous avons été baptisés dans une lumière de gloire et de puissance. Et dans cette vision, je sentais réellement la puissance de cette lumière monter du fond de mon être et sortir de moi au travers de mes mains. Nous avions le corps, le visage surtout, qui rayonnait d'une splendeur visible. Tout à coup, des flots de gens ont commencé à sortir des ténèbres, par dizaines de milliers. En arrivant près de nous, ils ont invoqué le nom du Seigneur. Nous avons prié, nous leur avons imposé les mains, et ils ont eux aussi reçu la lumière. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, à méditer sur cette vision. J'avais coutume de lire la parole aussitôt que je sortais du sommeil, et dès que les premières lueurs du matin ont commencé à entrer dans ma chambre, j'ai ouvert ma Bible pour poursuivre ma lecture. Et c'est alors que pour la première fois dans ma vie de jeune chrétien, j'ai lu Ésaïe 60. Et il est dit que les ténèbres couvriraient la terre, que la gloire du Seigneur se lèverait sur son peuple. Ces paroles m'ont sauté aux yeux comme l'éclair, avant de retentir comme le tonnerre dans mes entrailles et de les ébranler. C'était comme si j'avais pénétré réellement dans un verset biblique et que j'en avais vu l'accomplissement. Le Saint-Esprit et la parole avaient agi ensemble pour révéler qu'à la fin des temps, la gloire de Dieu serait manifestée dans son peuple, ce qui aurait pour effet d'amener des multitudes au Seigneur. Voilà, la vision avec la parole qui vient tout de suite après, souvent c'est de Dieu. Moi j'ai expérimenté ça de temps en temps aussi. Un rêve, un songe, et le matin, pouf, une parole qui colle au rêve ou au songe. Alors donc, chers amis, soyons pas paralysés par la peur et la crainte, en voyant les ténèbres qui s'épaississent autour de nous. Il y a des choses qui font un petit peu peur, hein, les lois, des lois qui ne nous semblent pas qui sont un peu spéciales, qui sont votées actuellement. Soyons encouragés par la promesse d'une grande moisson qui sera la conséquence, non pas de nos programmes, de nos beaux programmes et de nos belles méthodes de travail, mais de la présence de Dieu et de la gloire du Christ. Alors à cause du plan de Dieu pour ces derniers temps, poursuivons notre chemin. Il y a au moins trois chants qui parlaient de chemin ce matin. Poursuivons notre chemin dans l'espérance de cet avenir glorieux, sans nous tromper de chemin. Et c'est là le cœur de mon message maintenant. Je viens de vous parler de l'avenir glorieux. Mais je voudrais maintenant vous parler du présent et du chemin obligé vers la gloire, vers cet avenir glorieux. Il s'agit du brisement. Je vais vous dire quatre exemples de brisement ou quatre invitations du brisement dans la Bible. Oui, le brisement, chemin obligé vers la gloire. C'est le titre un peu de ce message. Le brisement, chemin obligé vers la gloire. Et pour vous montrer que ce que je déclare, c'est scripturaire, confirmé par les Écritures, donc je vais vous donner ces quatre exemples. Le premier, on vient de l'avoir. Le pain de vie. Qu'est-ce qu'elle a dit, Christine? Elle a répété, je pense, mais enfin c'est souvent dit en tout cas, chaque dimanche, on mentionne que le pain a été rompu, brisé. Hein? Si on reprend les paroles de Luc, il prit du pain pour avoir rendu grâce, il le rompit, c'est-à-dire il le brisa, et l'ordonna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Tous les dimanches, hein, on voit cela et ça nous rappelle une vérité essentielle qu'on a peut-être tendance à oublier, c'est que c'est aussi pour nous une invitation à se laisser briser, comme Jésus a été brisé. C'est ça la vérité essentielle qui est contenue dans cette scène que nous prenons ensemble. Jésus, le pain de vie, a été brisé. Et donc pour participer à la vie, il faut un brisement. Vous savez, la cérémonie de la Pâque chez les Juifs demande qu'après la bénédiction du pain, une partie du pain restant soit enveloppée dans une serviette et cachée pour être mangée plus tard. Ainsi, le Seigneur nous montre sa crucifixion et sa résurrection dans la bénédiction, hein. Dans la bénédiction, dans le brisement et dans l'enterrement du pain. Il est le pain qui est descendu du ciel, brisé, enseveli et retiré de la terre. Et donc ça illustre le besoin d'un brisement pour que la vie jaillisse. Vous êtes d'accord? Deuxième invitation, deuxième exemple, deuxième invitation au brisement, le grain de blé. Jean 12, 14. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Quand Jésus s'est humilié et a accepté les limitations d'un corps humain, il pouvait seulement être un endroit à la fois. Et donc pour un malade ou plusieurs malades peut-être qui guérissaient, il y en a des millions d'autres qui ne pouvaient pas guérir. Parce qu'il a accepté, il était limité par le temps et par l'espace. D'où parfois une certaine frustration, il avait cette aspiration. Et à un moment il dit, j'ai hâte de voir, d'être baptisé de ce baptême de feu. Parce qu'il savait qu'ensuite le Saint-Esprit allait se répandre. Et son action allait être démultipliée. Si je prends dans ma main un gland, voilà, un gland ou une graine, qu'est-ce que ça contient? Bon, ça peut contenir un arbre bientôt, mais pas seulement un arbre. Parce que l'arbre va donner plusieurs graines qui donneront d'autres arbres. Et donc, dans ma main, je tiens une forêt. C'est énorme. Mais si je laisse cette graine sur mon meuble, chez moi, je n'aurai pas la forêt. Il faut que ce grain soit moulé à la terre, enterré, pour donner cette forêt. Si cette graine n'est pas enterrée, elle ne produira rien. La vie intérieure est retenue par une coquille qui doit se briser. Ainsi en est-il de nos vies. Humilions-nous et permettons à Dieu de briser cette coquille pour que les fruits puissent être portés. L'important, ce n'est pas seulement la capacité de la vie de jaillir, mais c'est aussi le brisement du vase qui retient la vie captive. Ce n'est pas qu'on a besoin de plus de puissance, mais on a besoin de plus de brisement. Quand on est correctement brisé, eh bien on trouve que Christ est pleinement suffisant. Et donc l'allusion au vase que je viens de faire m'amène au troisième exemple. Troisième invitation au brisement, le vase d'albâtre. Ça vous rappelle une scène? Oui. Quelle scène? Oui. La femme qui a brisé le vase et qui a répandu. Voilà. C'est dans Marc 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus pour son enterrement. Là, ici, le parfum représente l'onction pour l'enterrement de Jésus. Il était très précieux, mais était contenu dans un vase d'albâtre. L'albâtre, c'est un genre de pierre employée pour faire les vases, mais on l'employait aussi pour faire des cercueils à l'époque. Et encore une fois, on a la vie qui est emballée dans la mort. La libération du parfum dépend de la rupture extérieure du vase. Le parfum précieux en nous peut-il se répandre? Le vase abrite la vie et la vie doit être brisée. Et pardon, le vase abrite la vie et ce vase doit être brisé. Voilà. Quatrième exemple, le voile du temple. En Marc 15, 38, Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Ouais, c'est 37, pardon. 15, 37, ok. Donc vous savez ce que le voile, sa place, il séparait, donc vous le savez, ça je pense, dans le temple, du lieu très saint, le lieu très saint du lieu saint, d'accord? Et seulement le souverain sacrificateur, une fois par an, pouvait rentrer. Quand Jésus est mort, le rideau épais qui se tenait comme une barrière entre la présence de Dieu et le peuple a été déchiré de haut en bas. Pourquoi de haut en bas? Pour démontrer que c'est Dieu qui déchirait lui-même, hein, le voile. Que le Christ avait ouvert l'accès à Dieu le Père. Une relation perdue depuis la chute. On sait aussi que souvent, les trois sections du temple, lieu très saint, lieu saint, parvis, représentent aussi les trois parties de notre personne. Le corps, le parvis, le corps, le lieu saint, l'âme, le lieu très saint, l'esprit. Voilà, les trois parties de l'homme. Et le Saint des Saints représente l'esprit de l'homme, où Christ veut faire sa demeure, où il a commencé à faire sa demeure, quand on est né de nouveau, quand on l'a invité dans notre vie, hein. Entre l'homme intérieur et l'homme extérieur se tient un voile épais. Alors je donne un exemple. Combien souvent on rencontre un frère, une sœur, et on sent leur caractère précieux. On sent quelque chose de précieux dans ce frère et dans sa sœur, dans cette sœur. Mais il y a quelque chose qui empêche la vie de couler, comme elle devrait. Ce quelque chose, c'est le voile charnel qui reste intact. Et là, on peut qu'espérer que le Seigneur vienne déchirer ce voile. Alors, ce qui est vrai pour notre frère et notre sœur, c'est vrai pour nous-mêmes aussi, bien sûr. Quand on sent un manque en nous, on ne devrait peut-être pas prier toujours plus de toi, Seigneur, mais moins de moi. Chercher plus de puissance, chercher peut-être, comme Jean-Baptiste, qu'il croisse que je diminue. Hein. Nous devons demander au Seigneur de nous briser, d'ôter le voile qui empêche la vie de se manifester. Alors voyez ces quatre exemples. Dans chacun des exemples, le Seigneur mentionne sa mort et sa résurrection. Le principe de la croix est central à chaque illustration. La bénédiction et la rupture du pain parlent de sa mort et sa résurrection. Le grain de blé parle de sa prochaine glorification par sa mort. Le vase d'albâtre est relié à la mort du Seigneur aussi par l'onction pour l'enterrement. Et le voile du temple est déchiré à l'heure de la mort de Jésus sur la croix. Quelqu'un écrit ceci, le besoin fondamental du disciple de Jésus n'est pas plus de puissance, mais plus de brisement. Réfléchissez à ça. Ça fait réfléchir. Le besoin fondamental du disciple n'est pas plus de puissance, mais plus de brisement. Voyez l'exemple des disciples de Jésus. Quand ont-ils pu être enfin un seul cœur et être cette église qui a rayonné à la Pentecôte? Or, la Pentecôte a été déversée seulement après qu'ils aient tous été brisés, ayant pris conscience de leur grande fragilité au moment de l'arrestation de Jésus. Ils ont tous décampé, sauf Jean qui suivait de loin et qui est resté avec Marie au pied de la croix. Je crois que quand ils ont revu Jésus ensuite, bien sûr, encouragé, fortifié, mais quand ils étaient dans la chambre haute, ils ont dû repenser à tous ces moments-là. Ils ont dû méditer sur leur grande faiblesse, sur leur faille. ils ont dû réaliser qu'ils ne pouvaient rien faire. Et donc, ils ont dû attendre cette puissance d'en haut. Et ils ont pu être vraiment un seul cœur après. Bon, ils étaient saisis aussi par l'agonie de leur maître qu'ils ont vu. Ça devait être terrible pour Jean et Marie, hein, au pied de la croix. Pensons au déversement de la Pentecôte avant ces événements-là. Ça aurait été une catastrophe. Pensons à ces disciples qui étaient capables de converser entre eux pour savoir qui était le plus grand, qui à un moment demandaient à Jésus s'il pouvait envoyer le feu pour aller punir des gens qui ne le recevaient pas. La puissance de Dieu sur des vies qui ne sont pas brisées, c'est la catastrophe. Et donc nous avons besoin de ce brisement, hein. Il y a un homme de Dieu qui a écrit ceci, il s'appelle Chip Brogdon, je ne le connaissais pas, mais je l'ai lu quelque part. « J'ai observé des milliers de personnes se précipiter en avant dans l'espoir d'obtenir une onction nouvelle de puissance spirituelle. Je les ai amenés à la poursuite de plus de puissance. Et je me suis joint à eux dans cette poursuite. Jour et nuit, j'ai recherché la puissance spirituelle pour surmonter mes péchés. Être un meilleur témoin du Seigneur, avoir un ministère puissant qui atteigne des milliers... Mais jusqu'au jour où le Seigneur m'a donné la révélation du Christ en moi et de moi en Christ. Et ce jour-là, c'était comme si je sortais d'une pièce pour entrer dans une autre. J'ai refermé la porte derrière moi. Depuis ce jour, j'ai vu que le problème n'est pas obtenir plus du Seigneur, mais lui permettre de me briser de façon à ne plus le gêner par ma propre sottise, ma fierté, ma sagesse naturelle. Mes convoitises charnelles, mon cœur divisé. Si je diminue un peu, il augmente un peu. Mais avec beaucoup de diminution de mon moi, il y aura beaucoup d'augmentation de lui. Avec moins de moi, il y aura plus de lui dans ma vie. On ne peut pas vouloir voir la puissance et refuser la faiblesse. Hein. Vous connaissez ce passage, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Chercher la puissance de la Pentecôte sans goûter à la douleur de la croix. Le Seigneur nous mène d'abord au calvaire. Nous ne pouvons pas éviter le calvaire dans notre course pour expérimenter la Pentecôte. Je cite deux autres passages comme ça. Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Sophonie 3.12. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, plus exactement c'est affligé et abaissé, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Alors ce brisement, on commence à le vivre à la conversion. Si on a vécu une conversion authentique, la repentance a accompagné la foi. Hein. Mais ce brisement, vous êtes d'accord? C'est pas parce qu'on est une fois sur un sommet que ça y est, on a gagné la victoire. C'est un processus qui se poursuit tout au long de notre vie. Une vie qui passe par des saisons, des montagnes, des vallées, il faut être réaliste, d'accord, hein, des temps des jardins et des déserts, des temps de lumière et d'obscurité. Des temps de soleil, de pluie, de chaleur, de froid, de douceur et d'amertume. Voilà, le Seigneur, des hauts et des bas, ouais. Le Seigneur nous apprend à vivre au-delà de nos circonstances, indépendamment de nos circonstances, et au-delà de notre environnement. On doit marcher par la foi et pas par la vue. Et pas penser qu'une expérience au sommet laisse supposer que le travail de la croix est totalement accompli en nous. Hein. Non, non, le Christ a dit, portons notre croix chaque jour pour être rendu parfait au jour, il viendra nous chercher. Quelqu'un, dans une lettre, un ami, m'a écrit ceci. Le peuple charismatique doit aussi être dépouillé de sa puissance pour prendre le chemin de l'agneau immolé. En vue de recevoir une nouvelle puissance qui ne sera plus une simple onction du Saint-Esprit comme auparavant, mais à la suite de Jésus, la puissance de sa vie de résurrection. c'est en tant qu'agneau, hein, d'accord, que le lion de Juda a remporté la victoire. Et c'est bien un agneau et non un lion que Jean, dans l'Apocalypse, a vu au milieu du trône. C'est donc en tant qu'agneau que Jésus a reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. C'est cette puissance de vie de résurrection que Paul cherchait, hein, quand il dit dans Philippiens 3, « Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence et la connaissance de Jésus-Christ afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » Les Écritures nous parlent des noces de l'agneau, jamais des noces du lion de Juda. L'épouse du Seigneur n'est pas une lionne, mais une agnelle, et l'autorité que celle-ci sera empreinte, certes d'une grande fermeté, mais aussi d'une douceur et d'humilité. L'Église a vécu sous l'onction de l'Esprit, mais l'épouse vivra de la vie de résurrection, venant de son époux. Mais cette puissance de vie de résurrection ne peut être accordé qu'à des personnes qui passent réellement par la mort du moi. Hein. C'est le chemin de l'agneau que le peuple du Seigneur va devoir prendre. C'est un chemin étroit et très difficile pour notre moi. Mais il ne faut pas avoir une connotation négative. J'espère que vous n'avez pas une connotation négative du mot brisement. Il faut penser à cette vie, à cette possibilité que la vie jaillisse. Il faut avoir les regards sur Jésus et sur sa vie de résurrection, hein, comme Paul nous y exhorte dans Hébreux 12. Je méditais sur ce message donc du brisement et je préparais ça donc à Bouvines, là au monastère où j'aime bien aller de temps en temps, au chemin neuf là. Et puis le soir, j'avais résolu de me détendre et donc je suis allé à la bibliothèque et j'ai pris du monastère et j'ai pris un livre. Et je l'ai lu en une soirée, j'avais pas lu un livre entier depuis plusieurs semaines, j'avoue, si ce n'est pas quelques mois. C'est pas bien. Mais là, en une soirée, j'ai lu ce livre. Et c'était comme si le Seigneur me donnait une illustration pour m'encourager à cette vie de résurrection. Et c'est un témoignage, ce livre s'appelle « Lumière sur l'échafaud ». Et c'est le témoignage d'un homme en 1957 condamné à mort, un Français. Qui s'appelait Jacques Fesch. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Oui, un petit peu, Colette, oui. Condamné à mort, guillotiné. Ça rigolait pas, hein, à ce moment-là. Ouais. Jacques Fesch. Et donc, on a entendu parler de lui il n'y a pas longtemps par sa fille qui n'avait plus son nom, qui, par honte, certainement, hein, par honte, parce que cet homme avait tué un gendarme, hein, entre autres. Un policier, donc par honte, ça venait pas d'elle, je pense que ça venait peut-être de sa famille, donc elle s'appelait d'un autre nom, et elle a redemandé ensuite, par la suite, à reprendre le nom de son père en découvrant les derniers mois de sa vie, les dernières heures de sa vie, et donc cet homme a vécu une conversion en prison remarquable, vraiment quelque chose de remarquable. Et donc le livre Lumière sur l'échafaud relate des extraits de lettres qu'il envoie à un ami religieux, à de la famille, et il y a aussi des extraits d'un journal qu'il a tenu jusqu'au bout. Écoutez, c'est bouleversant. Voici quelques extraits, 24 heures avant, lettre à un ami religieux. Petit frère bien-aimé, quand tu liras cette lettre, je serai au ciel et je verrai Jésus. Il faut, bien sûr, auparavant que le grain de froment soit moulu, que la grappe de raisin soit pressée. Alors, on va pas tous être guillotinés, rassurez-vous. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Bon, mais que craindrais-je possédant Jésus? J'attends dans la nuit et la paix que la puissance des ténèbres se déchaîne contre moi pour me tuer. Comme un léger souffle du vent enlève une fleur printanière. Ainsi le maître du jardin divin viendra cueillir mon âme pour l'emmener au paradis.
Rends-toi compte, petit frère, plus que quelques heures de lutte avant de connaître ce qu'est l'amour. Il a tant souffert, lui, pour moi, et dans sa bonté, il enlève encore tant de mes souffrances qu'il ne me reste plus grand-chose à supporter. Petit frère bien-aimé, ainsi j'attends l'amour, j'attends d'être enivré du torrent de délices et de chanter d'éternelles louanges à la gloire du ressuscité. Dieu est amour. Et quelques heures avant, dans son journal, il a écrit ceci. Jésus est tout près de moi. Il m'attire de plus en plus à lui. Je ne peux que l'adorer en silence, désirant mourir d'amour. J'attends dans la nuit et la paix. J'ai les yeux fixés sur le crucifié. Mes regards ne se détachent pas des plaies de mon Sauveur. Il m'attire tout doucement à lui, me donnant cette paix qui n'est pas de ce monde. Bouleversant ce témoignage. Si vous voulez avoir le livre, Lumière sur l'échafaud, donc j'ai pas emporté le livre puisque c'était à la bibliothèque, mais j'ai vu sur internet qu'on peut se le procurer assez facilement. Voilà, alors puisse Dieu nous accorder sa miséricorde pour nous permettre d'avancer sur ce chemin de brisement, pour avoir part ensuite à ce baptême dans la gloire. Voyez un petit peu comment cette vie, elle a jailli chez cet homme qui a tué parce que il y avait un contexte familial tellement difficile. Il n'y avait plus d'espoir pour lui. Plus d'espoir, il voulait à tout prix faire un voyage, il voulait de l'argent, il voulait faire n'importe quoi pour avoir cet argent, il a tué pour avoir cet argent. Mais il était visité par un aumônier en prison, et puis voilà, là il a eu cette conversion radicale. Alors on va terminer par la prière. Je vous invite à vous recueillir. Et on va s'inspirer de la prière de David, si vous voulez bien. Dans le psaume 39, on va prier, puis ensuite j'aimerais bien qu'on reprenne, on a le temps, 8:5, oui, juste le chant qui dit « Nous marchons, c'est encore possible, nous marchons, oui, c'est ça, nous marchons près de toi, d'accord ?» Voilà, comme pour nous encourager à poursuivre notre route sur ce chemin vers la gloire, même si c'est un chemin de brisement. Jésus a dit « Vous êtes heureux, même si vous êtes persécutés, vous êtes heureux. » L'Esprit de gloire repose sur vous. Voilà. Jésus, en vue de la joie qui était là devant elle, il a souffert la croix. Donc la prière de David dans le psaume 139. David était conscient de ses faiblesses, de ses failles. Et il commence sa prière, si vous lisez dans le psaume 139, « Éternel, tu me sondes, tu me connais. » Il trouvait sa sécurité dans l'assurance que Dieu sait tout de lui. Moi, cette pensée me donne souvent, me réconforte, m'apaise. Quand je sens que j'ai ce manque, quand je sens que j'ai encore ce voile charnel qui est là, qui empêche, ben je suis encouragé de savoir que Dieu sait tout, qui contrôle tout dans ma vie, qui sait comment déchirer ce voile. Il le sait. Et donc, c'est bien de commencer cette prière. Tu me sondes, tu me connais. Tu m'entoures par derrière et par devant. Mais comment il termine? C'est curieux. Ça paraît en contradiction, À la fin du psaume, il dit « Sonde-moi et connais mon cœur ». Sonde-moi pourquoi? Tu sais tout. Ça paraît une contradiction. Mais pourquoi c'est important? Parce que David dit « Oui, je suis d'accord pour collaborer avec toi. Je suis d'accord pour l'œuvre du Saint-Esprit en moi, pour que tu me transformes, pour que tu brises ce vase, pour que Dieu ne force pas. Il ne va pas nous forcer si nous lui résistons. Il a trop le respect de nous. Vous savez, comme nous, on est gêné quelquefois quand on sent ce caractère précieux, mais on sent bien ce petit quelque chose, ce voile, puis on a envie de le dire, et même avec amour. Mais parfois, on est gêné, on a peur de la réaction. Comment il va réagir? Comment il ou elle va réagir? Et Dieu, il est précautionneux comme ça. Non pas qu'il a peur de nos réactions, mais il ne va pas nous forcer. Il ne nous force pas si on lui résiste. Et donc, le fait de dire « Sonde-moi, ô Dieu », ça veut dire « Oui, je suis d'accord. Montre-moi s'il y a encore ce voile charnel. Montre-le-moi. » Vous êtes d'accord pour faire cette prière? Si on veut, je vous invite à fermer les yeux. Voilà, il y a « Prier avec moi ». Seigneur, Merci pour la promesse que dans les temps qui viennent, avec mes frères et sœurs, je suis appelé à refléter ta gloire comme jamais auparavant. Merci de ce que cette gloire attirera bien des âmes en détresse. Mais je reconnais aussi, Seigneur, que toute l'Écriture enseigne qu'il y a un chemin obligé vers cette gloire. Un chemin que tu as emprunté toi-même, celui du brisement. Alors je ne veux pas, Seigneur, passer à côté de ce chemin, parce que je veux participer à cette gloire. Je ne veux pas non plus avoir peur de prendre ce chemin, de passer par ce processus de brisement, parce que je ne veux pas retenir cette vie de résurrection. Et je trouverai la force de poursuivre ma route avec joie, en fixant mes yeux sur toi et sur cette vie de résurrection. Aussi, c'est sans crainte que je fais cette prière. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi dans la voie de l'éternité. Par cette prière, je t'adresse mon oui à l'œuvre du Saint-Esprit en moi, pour que soit brisé ce vase, déchiré ce voile, pour que je sois façonné à ton image. Amen.